Bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 15 novembre 2018. Et on le sent que c'est le 15 novembre, n'est-ce pas?
On s'appelle le 15 décembre.
Oui, on a battu des records de froid hier. Alors, ici Monique Kerouac, en compagnie de Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour Marie, et d'Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Et bien sûr, de Maurice Bolduc à la régie.
Oui, bonjour.
Bonjour, avec sa belle voix grave. Alors, voyons les sujets dont nous parlerons en première partie.
Oui.
Alors, Yvan?
Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le VAE?
Le vélo assisté électrique.
Assistance électrique. Bon,
bon 9,5
sur 10, c'est bon. Alors, je vous parle...
9,8, s'il vous plaît.
Je vous parle de gens qui l'ont adopté.
Ah, d'accord.
Oui.
Super. Marie?
Moi, je vous parle de l'erreur, notamment, comme condition... pour apprendre.
Ah, bien sûr. Si on ne tombe pas, on en apprendra en ski,
c'est ça.
Entre autres. De mon côté, eh bien, je vous parlerai d'épigénétique. Qu'est-ce que c'est ça?
Et... c'est la génétique des épis de blédin.
Pas tout à fait. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Alors, c'est parti! Alors, Yvan.
Oui. Oui, Monique.
Le VAE.
Le VAE, donc le vélo à assistance électrique. Je vous raconte deux témoignages de cyclistes qui ne peuvent plus s'en passer. C'est dans le magazine Vélomag, novembre-décembre 2018.
Donc, est-ce qu'ils prennent une pause durant l'hiver?
Je pense qu'il y en a beaucoup moins.
Il y en a moins.
Oh, oui, c'est comme mon temps mort.
Ils font sur place.
Oui, oui, c'est ça. Écrit par Maxime Bilodeau. Puis, je commence tout de suite. Je vous présente Martine Bertrand. On ne la connaît pas ni un ni l'autre. S'excuse presque d'utiliser un vélo à assistance électrique. Pourtant, cette chercheuse en intelligence artificielle de 37 ans a de bonnes raisons d'y recourir. 32 km séparent sa demeure à Terrebonne de son bureau au centre-ville de Montréal. Faites le calcul, c'est tout de même 64 bornes, 64 km, à franchir chaque jour pour aller au boulot et en revenir. Au bout d'une semaine normale, le compteur explose à 320 km. À la seule force de mes jambes, c'est faisable, mais épuisant si je le fais tous les jours. Le coût énergétique est majeur, explique celle qui est plutôt du genre sportive. Karaté, fat bike et vélo de route, entre autres, ponctuent son quotidien. Comme il n'était pas question pour la Terrebonnienne de renoncer à cette précieuse routine qu'elle voulait journalière, elle a décidé, il y a 2 ans, d'électrifier son vélo à pignon fixe et à guidon recourbé.
Je ne répéterai pas ça.
Moi, si je me suis pratiqué quelques fois. Bien branchée, Martine Bertrand a jeté son dévolu sur une roue arrière qui révolutionne sa manière de se déplacer. Elle gagne du temps, elle arrive au travail sans sueur, surtout c'est plus efficace que l'auto, l'autobus ou le métro, nous souligne-t-elle. C'est comme si vous avez un sabot de Denver sur la roue arrière, mais c'est le moteur qui est là-dedans.
Et elle est rouge.
Et elle est rouge, oui, le cercle est rouge. Puis c'est activé par ton téléphone intelligent. Enfin... attention toutefois de ne pas tomber à plat avec cette roue-là, parce qu'elle est très massive et elle transforme alors la randonnée en un véritable calvaire. Aussi, la nature de l'objet suscite la curiosité et attire les convoitises. Je ne prends pas de risque à ce chapitre. Je stationne mon vélo dans mon bureau. Jamais je ne le laisserai sans surveillance et à la merci des événements. À vous, Martine Bertrand. En effet, c'est tout de même un investissement à 2 000 $.
Oh, quand même.
Oui, bien, les vélos à assistance électrique, c'est pas donné encore pour l'instant. Maintenant, je vous parle d'un cycliste que vous connaissez peut-être, Louis Garneau. Louis Garneau, lui, a embrassé le bitume l'été dernier, il s'est blessé, il s'est brisé la clavicule. Mais il a aussi vécu une épiphanie sur 2 roues qu'il a expérimentée à Bonaventure, en Gaspésie, où il pédalait pendant quelques jours avec sa douce moitié. Nous avons tenu des moyennes de 29 à 30 km à l'heure sans problème. Moi, je roule à peu près 27-28, fait que peut-être qu'il a fallu que je force beaucoup pour les rattraper. C'était la première fois depuis longtemps que nous roulions ensemble et que nous étions tous deux satisfaits de notre journée, nous dit-il. L'anecdote pourrait être banale. Ça se pourrait que Madame s'est astreinte à un régime d'entraînement spartiate afin de suivre son cycliste de mari, par exemple. La vérité, c'est qu'elle n'a rien fait de spécial, sauf enfourcher un vélo à assistance électrique. J'étais sur un vélo de route et elle me suivait sans peine, me doublait même à l'occasion dans les côtes, raconte l'homme d'affaires de 60 ans, non sans une pointe de fierté. C'est ma plus belle expérience de vélo des 30 dernières années. Louis Garneau vit actuellement une histoire d'amour avec le vélo à assistance électrique. Dans les derniers mois, il a notamment voyagé entre son domicile et l'usine de son entreprise, toutes deux situées à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec, au guidon d'un tel vélo. Un parcours d'une poignée de kilomètres à peine, c'est tout près un de l'autre. Mais qui lui a permis de se faire une tête sur ce que certaines mauvaises langues appellent le vélo pacemaker. Aujourd'hui, sa réflexion sur le sujet est aboutie. Une fois la barrière psychologique franchie, on se rend compte qu'un vélo à assistance électrique est aussi efficace qu'une voiture pour se déplacer. L'enjeu, c'est donc les préjugés qui entourent l'objet. Il faut l'essayer, c'est tout. Alors, c'était deux témoignages. Puis là, ben, je commence à y penser, moi, au vélo à assistance électrique pour dans quelques années, parce que ça coûte assez cher. C'est entre, ce que j'ai vu, là, c'est entre 2 500 $ et 10 000 $.
Fois deux. Dans notre cas.
Mais, oui, au moins fois un pour toi, oui. Puis après ça, peut-être éventuellement fois deux.
Donc, l'essayer, c'est l'adopter, si on comprend bien.
Ouais. On va commencer par l'essayer.
D'accord. Merci beaucoup, Yvan. Alors, Marie, si on tombe, c'est pas grave. Au contraire, ça nous permet d'apprendre.
Non, il faut tomber, en fait, parce que c'est la condition même de l'apprentissage.
Sauf si tu es en vélo puis tu roules en peloton.
Alors là, en fait, c'est en deux parties, cet article-là.
Oui, c'est en deux parties. Je vous présente la première partie tout de suite. Et en fait, c'est un texte où on parle de Stanislas Dehaene, et je ne sais pas si je prononce correctement son nom de famille, c'est D-E-H-A-E-N-E. Il est professeur de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, c'est à Paris, et il vient de publier « Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines » aux éditions et Odile Jacob. Et dans ce livre, qui fourmille d'astuces et de récits d'expériences, c'est vraiment un livre intéressant, on l'a interrogé sur les recettes d'un apprentissage réussi, inspiré des neurosciences, de la psychologie cognitive et des sciences de l'éducation. Je vous présente ces extraits d'entrevue. À propos de ce secret que tous les élèves et leurs parents rêvent de connaître, on parle bien de apprendre, à mieux apprendre. Stanislas Dehaene dit « Personne, malheureusement, ne nous a appris les règles qui font que notre cerveau mémorise et comprend ou qu'il oublie et se trompe. C'est dommage car les interventions pédagogiques qui marchent ont été recensées. Verdict, savoir apprendre est l'un des plus importants facteurs de réussite scolaire. Tous les enfants démarrent dans la vie avec une architecture cérébrale analogue. Il dit que les bébés ont déjà un sens inné des probabilités, que le bébé est un scientifique en herbe et que c'est même une machine à apprendre, souvent imitée mais jamais égalée. Dès les premiers mois de vie, il formule le bébé, à son insu évidemment, des hypothèses sur les observations qu'il fait de son environnement. Ensuite, il les revoit constamment à la lumière de ses nouvelles expériences par un jeu de déduction rigoureuse grâce à quoi il peut apprendre le langage en un temps record. On prend le mot « chien » par exemple. La première fois que sa mère lui dit « Regarde ce chien », le bébé peut croire qu'il s'agit du seul chien qu'il voit ou, à l'autre extrême, de tous les quadrupèdes existants. Quand le bébé entend de nouveau ce mot appliqué à d'autres chiens, il élargit le concept à toute l'espèce, tout en le restreignant à cette seule espèce. Il suffit de trois ou quatre expériences pour que le bébé converge vers le sens d'un mot nouveau. Et ce faisant, il opère 10 à 1000 fois plus vite que les réseaux de neurones artificiels actuels. Et le bébé humain nous étonne par bien d'autres compétences. Il expérimente en permanence. Quand il fait tomber sa cuillère pour la 10e fois du haut de sa chaise, vous pensez sans doute qu'il met à l'épreuve votre patience parentale.
Oui.
Il n'en est rien. Quoique...
J'ai des doutes.
Tel un mini Galilée, il teste les lois de la gravité. Mais il a aussi d'étonnantes intuitions sur les nombres, les objets, la psychologie. Très tôt, par exemple, il teste les intentions des gens, bienveillantes ou malveillantes. Au laboratoire, on évalue ses savoirs en mesurant son degré de surprise. c'est-à-dire la durée de son regard sur une scène, quand il observe des situations qui violent les règles de la physique, de la géométrie, des probabilités. L'enfant n'apprend bien que lorsqu'il génère en permanence des hypothèses nouvelles. Un élève passif n'apprend guère. Et donc, je vous présenterai la suite de ce texte tout de suite après la prochaine chanson. C'est un texte que j'ai pris sur le site du journal suisse Le Temps, letemps.ch, un texte qui est daté du 14 septembre et qui est signé de Florence Rosier. C'est un joli nom.
Mm-hmm.
Merci Marie. Alors, on revient pour la suite.
Oui.
Journée parfaite par Dumas.
Oui, parfaitement froide. Alors Marie, la suite de l'erreur qui est bénéfique.
Qui est une condition de l'apprentissage et toujours ce texte de Florence Rosier publié sur le site du journal suisse Le Temps et où on parle de Stanislas Dehaene qui est professeur de psychologie cognitive expérimentale qui vient de publier « Apprendre les talents du cerveau ». Le défi des machines aux éditions Odile Jacob. Et il dit également qu'un apprentissage réussi repose sur 4 piliers. Je vous les présente. Le premier, c'est l'attention. Aucune information ne sera mémorisée si elle n'a pas d'abord été amplifiée par l'attention et la prise de conscience. Ça impose de ne pas se laisser distraire par des informations non pertinentes. Donc, pour les enseignants, et ça, là, c'est vraiment un message, d'écarter toute source de distraction. Par exemple, une classe trop décorée, les enseignants, ils ne se rendent pas compte, hein, mais ils empilent sur les murs, au plafond, dans les fenêtres, un tas d'informations, des affiches, parce que l'attention sélective doit être orientée vers le bon niveau d'information. Quand un élève dit aux enseignants « je ne vois pas ce que vous voulez dire », il est sincère. Mm-hmm. Il n'y a pas d'image.
C'est au sens littéral.
Tout à fait. Il n'y a pas d'image mentale correspondante et il faut donc être patient avec lui. Deuxième pilier de l'apprentissage, l'engagement actif. L'enfant n'apprend bien que lorsqu'il génère en permanence des hypothèses nouvelles. Un élève passif, on l'a dit tout à l'heure, n'apprend guère. L'enjeu est de le faire participer en cours pour que son esprit pétille de curiosité, pour qu'il anticipe sur ce qu'il croit avoir compris. En pratique, les bons enseignants utilisent déjà cette notion en alternant des périodes de cours magistrales avec celles où ils sollicitent les enfants à l'aide de questions. Ou bien, c'est la façon dont on lit un livre aussi, en faisant faire des anticipations, des hypothèses, etc. Un bilan des études sur le sujet le montre, les enfants qui bénéficient d'un enseignement favorisant l'engagement actif ont des résultats supérieurs d'un tiers. Troisièmement, le retour sur l'erreur est le troisième pilier de l'apprentissage, mais il implique d'accepter les erreurs. Mm-hmm. L'enfant qui s'engage doit rapidement recevoir un retour sur erreur. S'il a tout juste, il n'y a rien à changer. Sinon, il doit remettre à jour son modèle mental. L'erreur est la condition même de l'apprentissage. M. Dehaene estime que les notes ne sont pas un bon système d'évaluation parce qu'elles ne donnent pas une information précise sur l'endroit où l'élève s'est trompé. Elles n'ont pas vraiment d'intérêt pédagogique et elles génèrent du stress. On sait que les émotions positives nourrissent la curiosité et l'enthousiasme de l'enfant, mais que les émotions négatives bloquent les apprentissages. Elles figent les réseaux de neurones. Le professeur plaide donc pour décomplexer l'erreur, notamment dans l'apprentissage des mathématiques, trop souvent source de stress. Le dernier pilier de l'apprentissage, c'est la consolidation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir appris une seule fois. Les connaissances ne sont ni fortement imprimées, ni automatisées. Encore faut-il, par un jeu de répétition régulière, déplacer cet apprentissage superficiel vers des circuits cérébraux plus profonds qui les rendent autonomes. La lecture en offre un exemple. Au début, on déchiffre avec lenteur les mots d'une façon consciente qui demande un effort considérable. Mais à mesure que la lecture s'automatise, les circuits en jeu deviennent inconscients. Ça libère notre cortex frontal qui peut s'occuper à d'autres tâches. Pour maximiser la mémorisation à long terme, nous devons réviser nos connaissances à intervalles réguliers et croissants. Si nous voulons les retenir pendant 10 ans, il faut les réviser au bout de 2 ans. Et le sommeil, on termine par ça, joue un rôle crucial dans cette consolidation. C'est là une découverte récente des plus intéressantes. Le sommeil, moi j'aime beaucoup ça, cette idée-là, est une partie intégrante de l'algorithme d'apprentissage de notre cerveau. Quand nous dormons, nos neurones rejouent 20 fois plus vite ce que nous avons appris durant la journée. Ça permet une consolidation, mais aussi une abstraction. Chez l'enfant, la durée et la profondeur du sommeil sont directement corrélées à la quantité d'apprentissage, 3 fois plus que chez l'adulte. Voilà. Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses.
Oui, c'est très intéressant.
Ouais, alors, oui, alors, c'est un texte qu'on peut trouver.
Donc, tu vas te tromper plus souvent?
Oui, je vais dormir plus longtemps.
OK.
Un texte de Florence Rosier, publié sur le site du journal suisse letemps.ch.
Merci, Marie. Alors, c'est à mon tour de vous parler d'épigénétique.
Et non, oui, pas d'amour.
Et pas d'amour. Alors, quand l'article s'intitule « Quand notre environnement influence nos gènes », et c'est un dossier qui a été réalisé par Charlie Bruyère. Alors, vous devinez que l'épigénétique, c'est une discipline scientifique qui est relativement jeune. En fait, elle date d'à peine 15 ans. Si on pense au préfixe grec,
oui,
épi signifie « au-delà, mm-hmm, au-dessus ». Bien sûr, génétique, on va parler de l'ADN, mm-hmm, d'accord? Alors, en explorant comment les facteurs environnementaux de l'alimentation, la consommation de drogue, par exemple, en passant par le stress, la pollution atmosphérique ou les conditions climatiques, on voit que tout ça influence l'expression de nos gènes. et ces gènes qui renferment l'information nécessaire à la construction des êtres vivants. Ce nouvel axe de recherche offre des pistes pertinentes pour mieux comprendre ce qui impacte ou non l'évolution des organismes biologiques. L'épigénétique nous propose une vision sensiblement différente de la génétique classique, en ajoutant le concept inédit dans la façon d'appréhender les processus de régulation des cellules. On s'imagine que l'ADN, nos gènes, c'est fixe, ça ne bouge pas, mais ce n'est pas du tout le cas. L'idée que tout n'est pas inscrit dans la séquence d'ADN du génome, c'est ce que nous apporte l'épigénétique. Certains changements d'état ne sont pas le résultat direct d'une instruction codée dans l'ADN, mais la conséquence de perturbations aléatoires, de réactions donc biochimiques. Et ce qui est intéressant, c'est que de retenir, c'est que les modifications épigénétiques ont une nature réversible, dépendant des conditions de l'environnement au fil des ans, c'est pas instantané.
C'est vraiment que ça se construit, c'est pas nécessairement inné, ça bouge.
Ça bouge, exactement. Donc, depuis quelques années, les travaux se multiplient pour démontrer l'impact global des facteurs épigénétiques sur la santé humaine. Le rôle prépondérant de ces modifications épigénétiques dans le développement de certains cancers, de l'autisme ou de maladies neurodégénératives ou du type Alzheimer, ont été mis de l'avant dans une multitude de rapports scientifiques. Des chercheurs ont établi des corrélations, alors écoutez bien, nettes entre la santé humaine et la consommation des sodas. On pense que c'est extérieur, hein? On boit un soda, bon, on ingurgite du sucre, mais ça a une influence sur nos gènes. Ces boissons extrêmement sucrées seraient susceptibles de modifier l'ADN. Consommer une canette de soda par jour présenterait presque 3 fois plus de risques d'avoir un accident vasculaire ou d'être atteint de sénilité précoce. J'aime pas ce mot-là. des agences internationales de santé qui se basent sur des recherches ont mis en garde contre une consommation excessive de viande rouge ou de charcuterie parce qu'elle favorise des cancers et d'autres pathologies très graves. Puis un exemple bien concret de l'analyse que nous fournit donc l'épigénétique, c'est l'alimentation et l'hérédité. Alors, il y a des études qui ont mis en relief que lorsqu'un individu subit un important manque de nourriture, son métabolisme s'adapte, notamment grâce à une modification de l'expression du génome. En cas de pénurie alimentaire, les marqueurs épigénétiques changent de position, donc certains gènes sont activés et d'autres s'éteignent, et les cellules de l'organisme se mettent à stocker des réserves alimentaires avec davantage d'efficacité, donc pour avoir moins faim. C'est assez fascinant. Et donc, ils réagissent plus vite à une privation de nutriments. Outre ce phénomène, les chercheurs ont également montré qu'une fois installés, les marqueurs épigénétiques demeurent stables dans le temps et seront transmis aux générations futures, qui n'auront pas elles-mêmes subi la pénurie de nourriture. Donc, notre système garde en mémoire, et ça, c'est dans notre système génétique. Alors voilà, je pense que vous allez entendre de plus en plus parler d'épigénétique au fil du temps, parce que déjà cette semaine, j'entendais à la radio un propos à cet effet. C'était donc un article rédigé par Charlie Bruyère pour la revue Sciences et Univers de l'automne 2018.
L'éclat de tes yeux, le désordre de tes cheveux, l'odeur de ton corps, ton visage quand tu dors, ta peau faite de soie qui glisse sous mes doigts, les élans de paresse où s'endorment nos caresses. Oh, j'aime bien, bien le matin. Je pensais te garder au lit. S'il y a rien qui t'appelle, je resterai bien dans tes ailes. Il fait chaud, il fait bon, je me sens à la maison. J'aime bien, bien le matin. matin, je veux plus te quitter. T'es mon chandail préféré. Oh, j'aime bien, 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 bien. J'aime bien.
Samuel, le matin.
Merci beaucoup. Marie, une petite annonce pour samedi.
Oui, un petit peu d'autopromotion, n'a jamais tué personne. Samedi 17 novembre, au Salon du Livre, à 11h30 à l'Agora, je lirai Lily Macaroni, Je suis comme je suis.
Superbe.
C'est, dans le, cadre, c'est dans le cadre de Marie Raconte.
C'est dans le cadre de Marie Raconte, en fait. Puis, mais je serai là, live, avec des vrais enfants, j'espère.
Oui, et puis les images projetées,
oui,
si j'ai bien compris.
Oui, les images projetées. Oui,
ah,
c'est
superbe.
Ça.
Oui. Alors, on met ça à notre agenda.
Oui, merci.
Yvan?
Moi, de mon côté, je continue sur les vélos à assistance électrique. Est-ce que vous saviez qu'à Laval, on octroie une subvention de 400 $ si on veut acheter un vélo à assistance électrique? C'est maintenant à Granby qu'on fait la même chose. Et les autres, ils poussent la roue de vélo en accordant une aide financière à l'achat du vélo. Mm-hmm. Un budget supplémentaire de 10 000 $ a été voté pour grossir l'enveloppe de 25 000 $ qui s'est trop rapidement vidée, étant donné la demande.
Ah, mon Dieu! Alors, retenez ça, mais il faut habiter Laval ou Granby.
Ou Granby,
oui,
pour l'instant.
Ça. Il ne suffit pas d'aller l'acheter là-bas.
C'est ça, exactement.
Il faut avoir un compte de taxes là-bas.
Ah, oui, c'est ça. Alors, moi, je vous parle de Koala.
Oui.
Imaginez donc que l'Australie a dévoilé un plan de conservation pour aider les koalas. Alors, ils ont prévu un sanctuaire de koalas de quelques milliers d'hectares pour préserver l'habitat naturel de l'animal. Et on va faire attention à leur alimentation. Il va y avoir un hôpital. C'est extraordinaire parce qu'il faut bien savoir qu'il y avait en 1788 10 millions de koalas, il n'en reste plus que 43 000. Donc, il faut les protéger, ces petits animaux qu'on aime tant.
Est-ce qu'il y a un cinéma?
Alors, je vous invite à rester à l'écoute. Nous poursuivons après une brève pause. Alors, bon retour. C'est la suite de Voix de service magazine. Chers collaborateurs, Marie, de votre côté, vous nous parlerez de...
Est-ce que c'est vrai qu'on utilise seulement 10 % de notre cerveau?
La plupart du temps, les gens me disent ça de moi, oui.
C'est la suite, en fait. Ouais. On avait déjà parlé de ça, mais là, plus spécifiquement pour les enfants.
Ouais.
Et de votre côté, Yvan?
Moi, je vous parle de course à pied, mais pas de course à pied. Bon. Et dans des endroits loin de chez nous.
D'accord. De mon côté...
Est-ce que c'est assez clair?
Ben,
c'est plutôt en fait, confus.
Oui, c'est ça. Mais on ne commentera pas ça. Non. Jouer ou écouter de la musique, est-ce que ça peut influencer les habiletés de communication des enfants autistes?
Ah oui.
Oh.
Alors, on verra.
Si on n'est pas trop tannant.
Voilà.
OK.
Yvan, avec un peu de sérieux, s'il vous plaît.
Je vais essayer. Je vais utiliser un peu plus que 10 % de mon cerveau. Donc, c'est un article de Marc Cassivi, mais pas dans la presse. C'est dans le magazine Kilomag. En fait, c'est K-M-A-G. Je suppose qu'on prononce Kilomag. C'est complètement à la fin, ça s'appelle « Le dernier tour », puis le titre de son article, c'est « Avec pas de souliers ». Il n'y a pas que les souliers usés qui s'empilent au sous-sol. Il y a également les tiroirs de la commode. Dans les tiroirs de la commode, tous ces t-shirts de course rappelant différentes épreuves de 10 km, 21 km, Marie-Harry, parce que je fais la même chose avec mes maillots de vélo, et 42,2 km du passé. On n'oublie jamais le 2 km dans un marathon. Je ne les conserve pas comme des reliques ou des souvenirs de souffrance endurée, mais comme un équipement d'entraînement de tous les jours. S'il est difficile de déterminer à quelle date précise on s'est procuré telle chemise ou tel pantalon, il en est tout autrement pour ces t-shirts remis dans les expos de course l'avant-veille d'une épreuve. Généralement, la date est indiquée dessus. au moins la, sinon au moins l'année. Aussi, j'ai constaté ces derniers mois que je portais encore des maillots du marathon de Montréal de 2009 et de celui d'Ottawa de 2010. Ça commence à faire un bail. Ce n'est pas que j'ai une inclination particulière pour les vêtements vintage. Seulement, je n'aime pas gaspiller, ni du reste magasiner. Un t-shirt de course, c'est un t-shirt de course. Et si je boude celui un peu trop vif dans la palette de rouge du Tour du lac Brome 2011, je fais une rotation assez régulière du reste de ma collection multicolore de tissus légers qui respire bien. Parlons-en de respirer. Évidemment qu'une fine inspection nasale de ces t-shirts, particulièrement au niveau de l'aisselle, ne passerait pas le test d'une pub de Tide en odorama. On ne court pas pour répandre des effluves de bonheur olfactif de type fraîcheur printanière. Les critères d'hygiène d'un coureur en solitaire ne sont pas les mêmes que ceux de l'employé qui se rend au travail en transport en commun. Mais il y a tout de même des limites à ce qu'on peut faire endurer à son entourage. Quelle est donc cette limite? Je me posais récemment la question en vacances familiales à Hawaï. À court de shorts et de t-shirts synthétiques, j'avais décidé, par respect pour le dit entourage, de ne pas courir avant la prochaine lessive. Sauf qu'au paradis de l'Iron Man, la promesse d'une course inoubliable ne se refuse pas. J'étais à la plage, à plusieurs kilomètres de l'appartement que nous avions loué, lorsque j'ai découvert une magnifique piste de trail running menant à une deuxième plage isolée derrière un cap. Le hic, c'est que non seulement je portais un maillot de bain et un t-shirt en coton, mais je n'avais pas mes chaussures de course. L'appel était trop fort. J'ai enfilé les nouveaux souliers de kayak de fiston en tentant de me convaincre qu'ils avaient une lointaine parenté avec des chaussures minimalistes. On voit les orteils. Hein?
Oui, aventureux.
Oui, le mot important, c'est lointaine.
Oui. Et si au départ, j'avais le sentiment de courir comme un canard boiteux, ma foulée s'est progressivement adaptée à mes espadrilles. J'ai trouvé une cadence confortable et malgré les pierres et les cailloux, j'ai pu courir dans l'un des plus beaux décors qu'il m'ait été donné de voir. Morale de l'histoire, rien ne peut m'empêcher de courir. C'était signé par Marc Cassivi. C'est dans une revue gratuite que vous pouvez trouver dans tous les gyms. Ça s'appelle Kilomag et c'est hiver 2018.
Mais on n'est pas certaine que l'on ferait comme lui.
On est certaine qu'on ne ferait pas.
Courir avec n'importe quoi, là, non. Alors, de mon côté, je vous amène dans la salle de presse de l'UDM, de l'Université de Montréal, du 5 novembre dernier. C'est un article qui traite, comme je l'annonçais, de musique et d'autisme. Oui. Donc, le lien entre le trouble du spectre de l'autisme, TSA, et la musique est établi depuis la première description de l'autisme il y a à peu près 70 ans. Mm-hmm. Alors, à l'époque, on disait que près de la moitié des enfants atteints de ce trouble avaient l'oreille absolue. Bon, depuis, il y a des anecdotes qui corroborent l'incidence considérable que la musique peut avoir sur les personnes atteintes de TSA, mais pas nécessairement qu'ils ont tous l'oreille absolue. Il y a peu encore de preuves concluantes de ces bienfaits thérapeutiques. Alors, pour y voir clair, il y a des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université McGill qui ont mené un essai clinique de 3 mois sous la forme d'une intervention musicale auprès de 51 enfants autistes âgés de 6 à 12 ans. Alors, pour commencer, les parents ont répondu à des questionnaires sur les compétences en communication sociale de leur enfant, la qualité de leur vie familiale et la gravité des symptômes manifestés par leur enfant. Les enfants ont ensuite passé des examens d'imagerie par résonance magnétique pour déterminer l'activité cérébrale de base. Ensuite, les enfants ont été aléatoirement répartis en 2 groupes. L'un participait à des activités musicales et l'autre non. Chaque séance s'est déroulée en 45 minutes et les enfants du groupe qui prenaient part aux activités musicales ont chanté, ont joué de différents instruments de musique et travaillé avec une thérapeute à entretenir des interactions réciproques. L'autre groupe, le groupe témoin. Mmh. Les enfants ont travaillé avec la même thérapeute qui avait travaillé avec le premier groupe et participé aussi à des jeux de réciprocité, mais sans activité musicale. Ça va?
Mmh.
On comprend bien le contexte de l'expérimentation. Oui. Après les séances, les parents des enfants qui ont participé à l'intervention musicale ont rapporté que les capacités de communication de leurs enfants et la qualité de leur vie de famille s'étaient grandement améliorées. Beaucoup plus que les parents des enfants du groupe témoin. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans les deux groupes, la gravité des symptômes de l'autisme n'a pas été observée. Mais ce n'était pas non plus l'objet premier de l'intervention. Les résultats des examens d'IRM des enfants ayant chanté et joué d'un instrument indiquent que l'amélioration de leur capacité de communication pourrait être due à une connectivité accrue entre les cortex auditifs et moteurs de leur cerveau et une réduction de la connectivité entre le cortex auditif et visuel qui affecte souvent le comportement de communication de l'enfant parce qu'il est en surconnectivité.
Et surstimulation de ce niveau, à ce niveau-là.
Oui, exactement. Alors, il s'agit du premier essai clinique qui montre qu'une intervention musicale auprès d'enfants autistes en âge d'aller à l'école peut entraîner donc des améliorations sur le plan à la fois de la communication, des activités cérébrales et donne une éventuelle explication neuroscientifique relativement à l'amélioration des capacités de communication. Je pense que ça peut être intéressant et s'appliquer de façon universelle. Il faut simplement vérifier quel sera l'impact aux différents niveaux plus tard, après 12 ans, quoi, et comment ça se passe aussi à la maison et à l'école. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il n'y a eu que 8 à 12 séances hebdomadaires et qu'il y a eu des résultats presque immédiats. Quoi. Alors, c'était donc un article de la salle de presse de l'Université de Montréal pour U2M Nouvelles du 5 novembre 2018.
Les souvenirs sont bien souvent de vieux amis qui nous appellent. Quand on est triste, on les entend, ils ont des voix tellement belles. Celui qui tourne autour de moi est un reflet des beaux dimanches éparpillés dans les sous-bois où l'amour pleut en avalanche. Je me souviens d'un air d'accordéon qui traîne partout ses quatre mains. Et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête. J'ai dans mon cœur la voix d'une chanson qui parle tout haut de ma jeunesse. Mais les beaux jours n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ils m'ont laissé au dernier rang et mon amour quitte à la ronde. Comme ils sont loin les souvenirs, les tours de valse et l'espérance. On pleure un peu et pour finir, tout cela tient dans des romances. Souviens d'un air accordéon qui traîne partout ses quatre notes. Un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote. Et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête.
Un air d'accordéon par Zaza Fournier.
Alors Marie, ce qui a bien impressionné Yvan, l'utilisation du 10% de notre cerveau.
Est-ce que donc, est-ce que vous croyez ça, qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau?
Non. Mon avocat n'est peut-être pas ici.
Tu te prononces pas. Non, il y a d'autres choses qui interviennent en ton cas.
Ah, soyons sérieux.
Oui.
On retourne donc dans
C'est ça le malheur, on l'était.
Donc, je vous présente un texte qui a été traduit et adapté par Anne-Marie Grondin et publié le 13 novembre, c'est tout récent. Et ça a été publié sur le site RIRE, le réseau d'informations sur la réussite éducative. Parmi les croyances populaires, l'une veut que nous n'utilisions pas notre cerveau à son plein potentiel. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et effectivement, on en a déjà parlé. Le cerveau est complexe et mystérieux et c'est probablement la raison pour laquelle il existe tant de mythes à son sujet. Tout le monde a déjà eu, à un moment dans sa vie, de la difficulté à se rappeler une information importante ou à comprendre un problème complexe. Ces situations peuvent donner l'impression que nous n'avons pas accès à l'entièreté de notre cerveau, ce qui nous empêcherait parfois d'atteindre notre plein potentiel. Pourtant, cette fameuse croyance n'est en fait qu'un mythe. Nous utilisons bien toutes les régions de notre cerveau, sauf lorsque celui-ci est touché par une maladie. D'après les chercheurs, ce mythe existerait depuis le début du 20e siècle et résulterait d'une mauvaise compréhension de la recherche en neurologie. Il proviendrait vraisemblablement du psychologue et philosophe William James, qui a écrit dans « The Energies of Men » en 1908, et là ici c'est une traduction libre, « Nous n'utilisons qu'une une petite partie de nos ressources mentales et physiques possibles. » C'est ce que M. James avait écrit à ce moment-là. Le mythe s'est perpétué et on l'utilise aujourd'hui de plusieurs façons. Dans les films, par exemple, des personnages effectuent de formidables exploits grâce à une partie de leur cerveau soudainement accessible. Dans d'autres domaines, des personnes bien intentionnées par ailleurs, comme les enseignants ou les motivateurs, peuvent également se servir de ce mythe pour encourager les gens à atteindre leur plein potentiel. Il y a aussi des gens moins bien intentionnés qui s'en servent néanmoins pour vendre des produits qui permettent, soi-disant, l'accès à des habiletés cachées. Alors, démystifions le mythe du 10%. Il y a 5 raisons ici qui nous expliquent pourquoi ce mythe est faux, selon les neuroscientifiques. Premièrement, des images du cerveau montrent que les activités de la vie quotidienne, par exemple parler, marcher, écouter de la musique, entraîne l'activation de presque chaque région du cerveau. Mm-hmm. Deuxièmement, si ce mythe du 10% était vrai, une lésion au cerveau n'aurait aucune incidence. Pourtant, il y a des conséquences à l'atteinte de toute partie du cerveau. Troisièmement, un instant, ici je me fais niaiser par Siri. Merci. On s'excuse. Troisièmement, l'évolution ne nous doterait pas d'un aussi gros cerveau alors qu'on n'en utiliserait qu'une faible proportion, c'est 10%. Quatrièmement, l'utilisation du cerveau requiert 20% de l'énergie de notre corps.
Oui.
Utiliser autant de ressources pour une proportion aussi infime du cerveau n'aurait pas de sens. Et finalement, l'imagerie cérébrale montre qu'aucune aire du cerveau n'est complètement inactive. Alors voilà. C'était un texte traduit et adapté par Anne-Marie Grondin, publié le 13 novembre par Nathalie Couson sur le site RIRE.
Alors, Yvan, le sceptique, parce qu'il ne pense pas que nous... Tu penses qu'on exploite seulement 10%, mais en fait, c'est que peut-être qu'on ne travaille pas assez toutes les parties de notre cerveau.
Voilà.
Mais qu'elles sont toutes actives.
Ouais.
Peu importe.
On n'a pas le temps d'aller dans un débat, mais
exactement.
J'aurais quelques éléments à proposer.
Alors, on continue à courir dans d'autres lieux que Montréal.
Oui, et ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ça. Les carnets d'endorphines. oui. de Geneviève Lefebvre dans la presse d'hier du 14 novembre 2018, « Voir Paris et courir ».
Et non pas mourir.
Non, non, j'espère que non. Petite aube d'un samedi d'octobre dans le 6e arrondissement. Paris s'éveille. J'ai essayé de mettre de la musique là-dessus, mais j'ai laissé tomber. Je quitte mon hôtel en catimini, les runnings aux pieds, la voix de Dutronc dans les oreilles.
Mmh. On aime ça.
Oui.
Quai des Grands Augustins, tous les ponts s'offrent à moi et sous eux coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'il m'en souvienne? Tu crois vraiment que la joie vient toujours après la peine, Guillaume? Je pique à gauche sans attendre la réponse d'Apollinaire, avec pour seul plan que celui de m'éblouir les sens et m'encanailler les idées au pas de course. Je vous entends déjà, mais pourquoi diable vouloir faire du sport à Paris? Va au Louvre, fille, et slack sur l'entraînement. Justement, ce n'est pas de l'entraînement. Courir à Paris, c'est une aventure culturelle version bien chaussée. Et le diable...
Contrairement à M. Gassévi à Hawaï, qui était très mal chaussé.
Et le diable sait même que, si ce n'est que pour marcher, les runnings sont indispensables à la survie de celui et celle, donc, qui débarque dans la capitale française. Sans ces chaussures salvatrices, entre pavés désunis et escaliers à la volée, point de salut. Je zigzague entre la rive gauche et la rive droite, un pont à la fois jusqu'à redescendre sur les berges. À hauteur de Seine, avec une vue en contre-plongée sur les plus beaux monuments parisiens qui s'illuminent peu à peu sous les rayons d'un soleil qu'aucun nuage ne vient contrarier, je ne pense ni à ma vitesse, ni à mon kilométrage, et je savoure chacun de mes pas, chacune des images qui s'offrent à moi. Cadeau. Une fille sur une péniche m'envoie un signe de la main, son bol de café fumant dans l'autre, encore en pyjama sous sa doudoune. « Bonjour, sosie de Jane Birkin.
»« Mon Dieu, rien de moins.
» Je croise des chiens accompagnés de leur maître et plusieurs coureurs matinaux, des « runners », comme ils disent ici. Mm-hmm. Nous échangeons sourires et salutations. J'ai même droit à un enthousiaste « on ne lâche rien », équivalent local de notre « go, go, go ». Alors, je pique un sprint. Froid des Parisiens? Pas ceux en cuissard, en tout cas. Il faut croire que la confrérie des endorphines dépasse les préjugés que nous entretenons les uns sur les autres. Je reviens sur mes pas, empruntant un escalier pour remonter dans la ville, au hasard, Balthazar. Et je tombe face à face avec une beauté féroce qui me cloue sur place. Le musée du Louvre. Mmh. Éclatant dans la lumière du matin, encore désert ou presque, il s'offre à moi, alangui et princier, pour un dernier tour de piste avant la douche. Je marche, plus sûrement ralenti par la beauté que par n'importe quel point de côté. Lorsque je quitte mon beau Louvre pour la rue de Rivoli, avant de retrouver la rive gauche, quelqu'un a ouvert le robinet et le flot de la circulation. Scooter pétaradant, piéton en quête de croissant du samedi et camion de livraison a de nouveau envahi les rues. Paris est réveillé. Et là-dessus, elle nous parle d'une application qui s'appelle UrbiRun, qui est une application de visite guidée pour les coureurs à installer sur le téléphone. Par exemple, pour le parcours Paris au cœur de la ville Lumière, ça part d'une distance de 7,8 km, un dénivelé plat, et ça décrit le circuit qui nous emmène à la découverte des monuments principaux du cœur de Paris, du Palais Royal au Jardin des Tuileries, du Palais du Louvre au Quai de Seine, jusqu'au pied des majestueuses tours Notre-Dame. Vous pourrez sauter sur les colonnes Buren, sprinter dans les longues allées des Tuileries, contourner la pyramide du Louvre, traverser le Pont des Arts et faire du centre de la Ville Lumière le plus incroyable des parcours d'entraînement. Mmh. C'était dans les carnets d'endorphines de Geneviève Lefebvre, dans la presse d'hier, du 14 novembre. Ça s'intitulait « Voir Paris et courir
». Merci, Yvan.
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. n'importe qui, et c'est puis toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais accompagnée, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Champs-Élysées, revue par Zaz.
Alors, on ne court pas, mais on danse.
Oui, dans,
dans
le studio.
Dans le studio, il fait chaud.
Il y a une chorégraphie ici.
On ne sort plus d'ici.
Voilà.
Parce que le choc thermal est trop dur.
Yvan, une petite brève.
Une petite brève d'un Vélomag à la fin. C'est un coup de colère. C'est le coup de colère de Charles Aznavour quand il entendait l'expression « rouler en vélo » plutôt que « rouler à vélo ». Merci, Maître Aznavour, pour votre attachement à la langue française, mais aussi pour tout le reste.
Ah oui, de tellement belles chansons. Marie?
Alors, la saison des nez bouchés est officiellement commencée. Savez-vous que les décongestionnants sont à éviter chez les enfants? Les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas utiliser de décongestionnants. C'est une analyse de toutes les études disponibles sur le sujet qui nous révèle ça, Santé Canada notamment. Ce traitement pour la congestion nasale serait très peu efficace, causerait des effets secondaires pour les enfants. Quelques risques si on utilise de façon répétée les décongestionnants ou des sirops contenant du décongestionnant, somnolence, maux de ventre, maux de tête. Alors, vaut mieux pour les petits utiliser régulièrement une solution saline pour déboucher ou dégager le nez des petits.
Voilà. Oui, il faudrait le faire régulièrement, je
oui,
crois.
Oui, tout à fait.
Moi, je vous parle d'obésité. Un quart de la population mondiale serait touchée par l'obésité en 2045. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'environ 13 % des adultes dans le monde, 11 % les hommes, 15 % les femmes, souffrent d'obésité en 2016. Ça grimpe très vite. Il faut faire attention. D'ailleurs, il y a des données qui sont sorties hier. Pour le Québec, 26 % de la population serait, je ne sais pas si on peut dire okay, souffrirait, mais serait atteint d'obésité en 2030. Et pour les pays plus touchés, aux États-Unis, par exemple, plus de la moitié, 55, pourraient souffrir d'obésité en 2045. 55, c'est
55.
Énorme.
Mais contre eux, 30... ils ne le reconnaîtront pas, par exemple.
Non, c'est non, ça. Non. Contre 39 % en 2017, ce qui est quand même énorme.
Ouais.
Alors, je nous invite tous à faire attention parce que cette hausse pourrait causer de la mortalité à cause du diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers, selon les scientifiques. Mmh. Alors, soyons attentifs à notre alimentation. Marie, un petit mot d'enfant?
Oui, alors un pharaon, selon Louis VII, il écrivait sur des papiers russes.
Ben oui.
Ah, ah, ah. Et le plus connu, selon Nicolas, 8 ans, est Tonton Camon.
Oh, Tonton Camon, on l'aime bien celui-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Marie, merci Yvan pour le choix de vos articles.
Merci
à Maurice pour le choix de la musique et la mise en onde, bien sûr. Alors, bonne semaine et au plaisir de vous retrouver à notre antenne la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.